Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez le magazine Vivre Ici sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Le week-end du 9 et 10 novembre, à la salle des Condamines au Pouget, aura lieu la 10e édition du festival Et le singe devint pion, où nous aurons l'occasion de tous nous réunir pour nous amuser autour de différents jeux de société, mais pas que. Un événement organisé par l'association Homo Ludens Associés, qui, depuis 15 années, a pour objectif de promouvoir le jeu comme objet culturel à part entière, notamment en offrant plusieurs animations au sein des bibliothèques médiathèques de notre beau département. RPH se fait un plaisir de recevoir aujourd'hui Romain Camarata, membre d'Homo Ludens, qui va nous parler un peu plus en détail du festival. Bonjour Romain. Pour commencer, pourrais-tu te présenter à ceux qui nous écoutent ?
Bonjour Pablo, bravo pour cette belle présentation.
Merci.
C'est toi, Gérard. Alors moi, je suis Romain Camarata, je travaille pour Homo Ludens depuis maintenant 6 ans. Qui est une petite association que j'ai croisée complètement par hasard sur un petit événement dans le village de Plessan, au quartier Enjeu. Un événement qui a attiré une centaine de personnes, de passionnés, et je suis tombé complètement amoureux de cette association. Dès le premier événement, je n'ai pas pu m'en décrocher et j'ai commencé à jouer. Je ne m'en suis pas arrêté. J'ai fini par y travailler bénévolement. Puis j'en suis devenu président. Puis j'ai acheté le siège social, carrément.
Ah oui.
Et j'en suis devenu salarié après. Voilà.
Donc c'est vraiment une longue histoire d'amour qui a commencé avec cette association. Mais justement, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de Homo Ludens Associé, un peu plus en détail
Alors Homo Ludens, c'est parti d'une rencontre de deux joueurs, voilà, qui se sont rencontrés dans une cave plessanaise où avaient lieu des rendez-vous ludiques dans un cercle un peu fermé, mais qui attirait pas mal de monde. Puis pas assez de place, donc ils se sont dit que peut-être ça pourrait valoir le coup de créer quelque chose autour de cette émulation autour du jeu. Et ils ont eu l'idée de créer cette petite association. Donc leur idée, c'était d'amener le jeu au public, donc se déplacer, faire une ludothèque ambulante, et d'amener le jeu dans les bibliothèques, ce qui ne se faisait absolument pas du tout.
Ouais.
Voilà. Et l'envie de montrer que cet objet-là est un objet culturel comme un autre, comme un livre, comme un CD, comme un film. On a un auteur, un illustrateur, un éditeur. Et voilà, c'est parti de là. Ils ont eu comme premier partenariat la CCVH, donc la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, qui les a pas mal aidés. Et ils sont allés de bibliothèque en bibliothèque jusqu'à arriver à maintenant, où on est dans une bonne partie des bibliothèques de la Vallée de l'Hérault, de la communauté de communes du Clermontais, et d'autres un peu sur le rayon extérieur.
D'accord. Et vous avez d'autres zones d'action que l'Hérault depuis la création de l'association?
Alors ponctuellement, l'idée c'est aussi d'essayer de rester dans un secteur, on va dire, environ une trentaine de kilomètres autour du siège social, dans le but de ne pas non plus dépenser trop d'essence,
oui, bien sûr.
Et de rester dans quelque chose de local. Mais ça nous arrive. On a des demandes un peu plus loin où... sur des demandes spécifiques, on va se déplacer. Après, on travaille pas mal en partenariat avec d'autres associations du secteur, et donc l'idée, c'est aussi de présenter, lorsqu'on a des demandes un peu loin, présenter les autres associations, voilà, travailler en commun.
Alors du coup, quels sont un peu ces partenaires? Tu en as cité un peu tout à l'heure, notamment le CCVH. Est-ce que tu en aurais d'autres?
Alors, la CCVH, on a la communauté de communes du Clermontais,
okay.
La communauté de communes du Picénois. Voilà, et on travaille beaucoup avec la caisse d'allocation familiale aussi de l'Hérault,
okay.
Qui nous a beaucoup sollicité pour qu'on puisse mener des actions, et on travaille en partenariat. Et un de gros partenariats, c'est la mairie de Plessan, qui nous prête des locaux et qui nous aide énormément à nous développer, c'est assez agréable. Et après, des partenariats où on va travailler avec d'autres associations, comme la Compagnie des Jeux, qui sont sur l'ODEV et qui travaillent un peu de la même façon que nous. Et du coup, on peut être complémentaire sur des animations et d'autres animations sur, d'autres associations plus sur Montpellier, le Montpellierin, notamment l'association du Festival du Jeu de Montpellier.
D'accord. Je vais retourner du coup à ce qui nous anime là pour ce week-end. Cette 10e édition du festival donc, Et le singe devint un pion, hein, festival de jeux, où on trouvera plein de jeux, jeux rétro, comme jeux de société, vraiment beaucoup, beaucoup d'activités qui nous attendent. Comment se passe un peu l'organisation de cette 10e édition ?
Alors c'est une rencontre de pas mal de bénévoles. Voilà, donc c'est nous sommes 3 salariés, donc du coup on va dire qu'on est le noyau de départ. Mais on a une 20aine de bénévoles qui travaillent autour de ce festival, et le jour même, il y en a même 36. Donc on fait des petites réunions qui se terminent souvent autour des jeux, principalement. On s'amuse beaucoup ensemble. Et voilà, ça peut être au début chaotique, mais de ce chaos ressort pas mal d'idées. Et on arrive à une organisation qui fonctionne plutôt pas mal. Et surtout, le maître mot, c'est que les gens se fassent plaisir. Donc tous les bénévoles, quand ils viennent à ces réunions et puis ce temps de festival, ils viennent aussi pour expliquer les jeux qu'ils apprécient et faire ce qu'ils aiment. Voilà. Et il n'y a aucune volonté. Enfin voilà, l'idée, ce n'est pas de demander aux gens de rester la journée si ça ne leur fait pas plaisir. Voilà. Là, c'est vraiment ce plaisir-là.
Quoi. Bien sûr que le kiff, c'est vraiment de s'amuser tous ensemble autour de plein de jeux. Du coup, est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit avant-goût de, je sais pas, quelques petits jeux, peut-être des petits coups de cœur qui seront présents cette année au festival ?
Alors, on a surtout des auteurs qui vont se déplacer et présenter leurs créations. Cette année, on fait venir deux auteurs qui viennent plutôt du nord de la France. Notamment Aurélien Martin avec un petit jeu qui s'appelle Imiki, petit jeu à deux, abstrait. Et on va dire très simple en règle, par contre avec une réflexion qui peut aller très très loin. On a aussi une petite exclusivité, c'est le jeu Crack 29 créé par deux auteurs héroltés qui ont tous les deux créé des jeux de leur côté et puis ils se sont réunis pour ce jeu-là. C'est un jeu, donc Crack 29, qui est sorti là le 29 octobre, c'est un jeu autour du crack boursier. Voilà, donc assez marrant, un jeu qui va mettre un peu de stress et qui est assez rigolo.
Ok. Et j'ai vu aussi qu'il y aura une partie rétro gaming. On aura l'occasion, enfin les gens en tout cas auront l'occasion de jouer à plusieurs vieilles consoles dans le but de faire connaître aux plus jeunes et raviver le souvenir de certains. Quelles consoles on pourra trouver de cette lointaine époque
Alors, il y a plusieurs consoles. Alors ça, c'est particulier parce que pendant un moment, sur les festivals, on a arrêté le rétro gaming en se disant on va axer plus sur le jeu de société. Et on se rend compte que les gens nous redemandent ces vieilles consoles. Donc cette année, après 4 ans d'interruption de consoles, elles sont de retour. Et notamment, on a pu avoir une console, une borne d'arcade Neo Geo, assez rare à trouver, donc prêtée par un des bénévoles qui est passionné par le jeu vidéo. On peut retrouver une Atari ST. Ça, c'est assez rare à trouver. Et après, on va dire des grands classiques de notre enfance, la Nintendo, la Super Nintendo, Nintendo 64, les Sega Mega Drive, Saturn.
Dreamcast, peut-être.
Dreamcast, bien sûr. Alors, Dreamcast, un peu particulier, on la sort avec les deux pistolets. Voilà. Okay. Un mode de jeu un peu particulier. Et on essaye d'avoir des vieux écrans aussi, parce que c'est assez marrant de pouvoir montrer aux enfants d'aujourd'hui les tubes cathodiques qu'ils ne connaissent pas du tout. Voilà. Et toutes ces consoles avec des fils de partout, et des temps de chargement où il fallait patienter avant de jouer.
Oui,
ils ne connaissent pas trop.
Oui, je me souviens, j'avais une PlayStation 2, ça créait un peu de tension à chaque fois, à chaque partie, ça dépendait des jeux même des fois. Mm-hmm. Mais du coup, toutes les consoles que tu as cité par exemple l'Atari ST, certaines sont vraiment anciennes, y a-t-il eu un travail de restauration pour certaines ? Je crois savoir aussi que vous restaurez éventuellement des jeux de société, pas que les consoles.
Effectivement, les deux. Alors les vieilles consoles, ça demande de l'entretien, parce que c'est des vieilles machines, donc elles ont toujours besoin d'un petit temps de nettoyage. On se rappelle tous, à l'époque, de souffler dans la disquette avant de la mettre dans la console, ce qui n'était pas vraiment très très bon normalement, mais voilà, donc elles ont toutes besoin d'être ouvertes, de nettoyer. Oui, et certaines ne marchaient plus du tout, donc on a dans le lot quelques bénévoles qui touchent un petit peu, donc c'est assez agréable de pouvoir faire revivre ces consoles. Et le jeu de société, on a commencé donc au tout début de l'association à récupérer des vieux jeux, dans l'idée de les stocker, de les remettre en état, donc avec plusieurs boîtes, on en refait quelques-unes, et on a été longtemps en partenariat avec la ressourcerie Cœur d'Héros, qui au début nous remettait un sac de jeu, puis on a fini par pratiquement 200 kilos par mois. C'était énorme. Ah ouais. Donc malheureusement, on n'a plus les locaux pour accueillir tous ces jeux-là, mais on continue toujours à en restaurer, ce qui va nous permettre de montrer des très vieux jeux. Voilà, là par exemple, on pourrait retrouver L'île infernale, qui est un vieux jeu qu'on a tous croisé, ou par exemple des vieux Docteur Maboule, wow. Des choses comme ça. Voilà, et encore plein de surprises, plein de vieux jeux.
Ah ben on l'espère en tout cas. Quel est un peu votre agenda à venir après le festival? Est-ce que vous aviez d'autres choses de prévues?
Alors on intervient dans plein d'événements, mais notamment le cœur de nos interventions, c'est dans les bibliothèques. Donc on peut nous retrouver dans les bibliothèques de la Vallée de l'Hérault, de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault et du Clermontais. Donc là, on peut retrouver l'agenda sur notre site internet ou alors sur les agendas des communautés de communes. Et c'est des rendez-vous ponctuels qui sont soit toutes les semaines, tous les 15 jours ou des fois une fois par mois. Et après, on a des rendez-vous un peu plus ponctuels, mais qui vont être généralement un peu plus privés, dans des écoles, dans des institutions ou autres animations de foire ou comme ça. Voilà.
Est-ce qu'on peut aussi vous retrouver sur les réseaux ?
Sur les réseaux, effectivement. Alors, c'est une partie que je ne gère pas trop, mais j'ai un collègue qui fait ça, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook.
Ok.
Voilà, où là, toutes les animations sont annoncées. Ou après sur notre site internet.
Tu peux nous épeler le site internet?
Alors, le site internet, c'est www.homoludensassocié.fr.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Romain, d'être venu nous parler de ton association et de ce 10e festival qui aura lieu donc, je le rappelle, du 9 au 10 novembre au Pouget à la salle des Condamines de 14h à 22h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. L'entrée est gratuite et bien sûr, tout public. J'annonce aussi que votre humble serviteur sera sur place pour un reportage qui sera diffusé prochainement sur nos ondes. Une excellente journée sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.